trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Xavier Chapard est à nos côtés, stratégiste chez LBPAM. Bonsoir Xavier.
Bonsoir.
Laurent Denise nous accompagne également, le co-directeur des investissements d'Odo BHF. Bonsoir Laurent.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être là et merci à Adrien Dumas d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Adrien.
Bonsoir.
Directeur des investissements de Mandarine Gestion. Que retenir de la publication de Nvidia et surtout de cette réaction de marché un peu inhabituelle par rapport à ce qu'on a pu observer les trimestres précédents? Le beat and raise ne suffit plus visiblement à satisfaire des investisseurs qui se sont peut-être trop habitués au coup d'éclat de Nvidia, Adrien.
Oui, alors déjà, effectivement, les attentes pour le prochain trimestre étaient très, très ambitieuses. Enfin, le marché avait des attentes extrêmement élevées. Nvidia tombe pas très, très loin, hein, puisqu'il guide pour l'activité data center autour de 32,5 milliards de chiffre d'affaires. Le consensus était plutôt autour des 33, donc c'est, on peut pas dire, un petit peu ça qui déçoit. Quand on regarde dans le détail, il y a aussi des sujets liés à la nouvelle puce, donc qui s'appelle Blackwell, dont il y a un mois, Nvidia nous avait informé qu'il avait des retards dans le cycle de préparation à la production. Et effectivement, Nvidia a précisé hier que il y avait un petit redesign nécessaire pour la production en masse, mais par contre que la demande était là. Donc effectivement, ça pose quelques questions dans cette transition entre le modèle Hopper, donc le H100 et le B200, et donc un troisième trimestre qui sera un moment un peu charnière entre la montée en cadence de la B200, dont les premiers résultats en termes de chiffre d'affaires devaient être là pour le quatrième trimestre, et la maturité de la puce H100.
Donc là, il y a un premier test, non, en tout cas, un test sur la capacité de Nvidia, de Jensen Huang, effectivement, à tenir ce rythme très agressif qu'il a édicté de sortir chaque année une nouvelle puce pour garder un avantage concurrentiel sur une concurrence qui est en train, évidemment, de se mettre en ordre de marche.
Exactement. Et la question tourne beaucoup aussi autour de la capacité à non phagocyter, en fait, les différents modèles historiques.
Ouais.
Donc, est-ce qu'il n'y a pas trop de cannibalisation par la nouvelle innovation? Donc, la question, effectivement, est un peu là. C'est la déception par rapport au troisième trimestre où, effectivement, on va voir pour la première fois se chevaucher à la fois les ventes
de Hopper, c'est ça,
et de H100, Hopper et de Blackwell, ouais, qui devraient se matérialiser notamment sur le quatrième trimestre. Donc oui, c'est un moment un peu charnière. Alors après, il faut mettre ça aussi dans le contexte. Hein. Nvidia était certainement le seul titre quasiment de la thématique de l'intelligence artificielle à être quasiment proche de ses plus hauts. Dans le parcours du mois d'août, la majorité des autres acteurs, des autres entreprises concernées par cette thématique étaient plutôt à 15-20% des plus hauts. Donc il y avait beaucoup d'attentes autour de cette publication. Il y a, je pense, aussi un montant de buyback qui est un peu faible. Donc on se pose aussi des questions
50
sur
milliards,
la volonté de retour
aux actionnaires. Sur une capi de 3 000 milliards,
bien sûr. Il y a un peu de déception sur la marge de brut parce qu'effectivement, cette nouvelle puce B200 demande des investissements importants. Donc la marge de brut va être un peu impactée au troisième trimestre et au quatrième trimestre. On est quand même à 75%. Bon, on devrait être autour de 73% au quatrième trimestre. Ça me semble pas dramatique. Mais voilà les quelques points sur lesquels on peut considérer qu'effectivement, il y a une petite déception. Ce qui est intéressant, par contre, c'est la réaction de marché. Donc, effectivement, le titre Nvidia est un petit peu en baisse, intégrant ces potentielles déceptions. Le reste des industries ou des secteurs tirés par cette thématique sont en hausse parce qu'effectivement, le message sous-jacent est quand même qu'il y a un déploiement qui est toujours là. Deux choses peut-être intéressantes. Un, il y a beaucoup plus de profondeur en termes d'acheteurs de puces. On avait un peu d'inquiétude sur le fait que Nvidia avait du mal à diversifier ses acheteurs autour des 6 grands hyperscalers. Là, voilà, on voit vraiment un nombre d'acheteurs beaucoup plus large, notamment souverains, hein, qui viennent acheter des puces. Il y a le poids de la Chine aussi qui continue à se réduire, parce qu'on avait aussi des questions sur le potentiel arrêt de vente. Donc, il y a un modèle qui a été développé qui s'appelle le H20.
Spécifique pour la Chine.
Exactement, qui s'est plutôt bien vendu. Ça représente 12% du chiffre d'affaires de Nvidia là, sur le trimestre. Voilà, donc la demande semble là. Et la question maintenant, après toute la construction de cette infrastructure qui va donner encore de la croissance à Nvidia, c'est est-ce que le consommateur va s'emparer de ce sujet? C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui commencent à se poser la question de est-ce qu'il n'y a pas d'autres acteurs? C'est peut-être ça le changement de leadership, comme Apple, comme Microsoft, qui, par le renouvellement du cycle produit, avec notamment le nouvel iPhone qui devrait intégrer des capacités d'intelligence artificielle, vont aussi bénéficier de ce cycle de déploiement.
Mais c'est ça, donc la création de valeur va se déplacer un petit peu sur
exactement, de l'infrastructure vers le produit de consommateur.
Mais vous dites cette réaction de marché, elle concerne Nvidia et uniquement Nvidia, le marché n'en fait pas un message global sur le thème IA ou la demande pour l'infrastructure d'IA qui commencerait à s'essouffler. C'est pas ce qu'il faut retenir de cette publication.
Les chiffres et la communication de Nvidia sont effectivement très convaincantes sur le potentiel de croissance.
Laurent, sur Nvidia, ce que représente Nvidia aujourd'hui, l'emprise que peut avoir Nvidia aussi sur le marché, hein, on voit que c'est une valeur qui peut faire bouger le S&P 500 de manière spectaculaire. Est-ce que c'est toujours très vrai? Est-ce que le marché peut se désensibiliser un petit peu à peu, de Nvidia pour regarder peut-être ailleurs dans ce grand thème de l'intelligence artificielle aujourd'hui?
Effectivement, une certaine normalisation en fait par rapport aux attentes de Nvidia qui étaient peut-être un petit peu exagérées. Peut-être un tout petit commentaire par rapport à la demande ou la cannibalisation. En fait, la problématique, si on se met sur une perspective de long terme, c'est pas du tout une baisse de la demande. C'est qu'il ne va pas y avoir de cannibalisation puisqu'il y a un manque d'offres pour l'instant. Donc en fait, Nvidia, effectivement, se normalise sur les marges, mais en fait, quand on regarde le pourcentage en fait, représenté par Meta, Google, Amazon
Microsoft.
Et Microsoft, c'est 45% en fait, du chiffre d'affaires de Nvidia sur les data centers. Et il ne faut pas se tromper. La problématique de ces quatre géants, c'est de ne pas se désinvestir, mais c'est d'être sous-investi et de rater le virage en fait, que procure l'IA en termes justement de disruption sur les marchés. Donc Nvidia se normalise à la marge, mais alors on n'est pas du tout inquiet, et notamment sur cette cannibalisation, il y a de la place pour toutes les puces, et pour les nouvelles comme pour les anciennes.
Et même comme vous dites, on en manque, toujours.
Exactement. Ouais. Après, est-ce qu'on a, pour la deuxième partie de votre question, est-ce qu'on a en fait un commencement en fait de balancier qui se met en place, c'est effectivement ce qu'on perçoit dans le marché. On perçoit effectivement qu'on est en train en fait quand même de questionner la rentabilité sur capital investi sur justement cette intelligence artificielle. Et on est en train de se rendre compte que ça va peut-être prendre plus de temps que prévu, que finalement ces gains de productivité anticipés ne vont peut-être pas se mettre en place aussi rapidement que prévu. Mais en face de ça, on voit aussi que la concurrence, puisqu'on l'a évoqué sur Nvidia, elle ne se met pas aussi en place aussi rapidement qu'anticipé. Donc il risque d'y avoir un switch, et pas simplement un switch aussi sur Nvidia par rapport au marché de l'intelligence artificielle, mais peut-être le marché de l'intelligence artificielle et son évolution des constructeurs d'autoroutes, et puis où l'autoroute nous amène. Et c'est là on risque d'avoir encore un commencement de balancier vers le transhumanisme, vers les robots humanoïdes. Enfin, il va falloir identifier en fait les nouvelles valeurs de l'intelligence artificielle qui vont faire le nouveau buzz. Ouais. Nvidia va se normaliser, c'est ça qui est important. Ça veut dire qu'on va avoir...
Ça va se commoditiser,
voilà,
Nvidia.
On va avoir une dispersion parce qu'il va y avoir moins de surprises par rapport aux attentes. Et en fait, c'est ça qui faisait le buzz sur Nvidia. Et vraisemblablement, ça va diminuer. Et c'est donc l'identification des nouveaux disrupteurs qu'il va falloir sur lequel il va falloir travailler, et c'est lequel on travaille.
Ouais c'est ça. Mais ça laisse la place effectivement à un autre champ d'action pour l'investisseur.
Et après on parlera macro, mais
en fait
on est dans un environnement aussi macroéconomique et de disruption technologique un peu mature de ce côté-là, qui fait que on risque d'avoir effectivement une réallocation des investisseurs, peut-être moins focalisé sur Nvidia. Nvidia qui représentait 20% des options, qui représentait 10 fois les volumes traités sur le CAC 40 il y a encore un mois. Enfin, c'est
Ah ben c'est monstrueux.
Donc là,
une emprise
historique. On a vu le pic justement du focus sur Nvidia.
Ouais. D'accord avec l'idée que le marché va se désensibiliser un petit peu de Nvidia, regarder un peu ailleurs. Et est-ce que ça ouvre la place justement à d'autres segments de marché, d'autres secteurs? Alors là, on est dans le domaine de la tech, mais le marché peut aussi considérer des secteurs beaucoup plus traditionnels également, qui n'ont pas fait grand-chose jusqu'à présent aussi sur ce marché américain. Hein.
Oui, ça va dépendre d'autres choses. Effectivement, la notion d'élargissement de la performance des marchés, elle ne va pas non plus dépendre qu'effectivement de la rapidité de déploiement ou le nouveau marché adressable et à l'intelligence artificielle. Elle va dépendre de l'évolution des taux, de la prochaine élection américaine. Il y a plein d'éléments qui viendront jouer là-dedans. Mais oui, je partage en effet l'idée que le sujet d'infrastructure aujourd'hui commence à être bien encadré avec des chiffres qu'on prévoit à 2025-2026 qui sont quand même maintenant assez bien balisés. Et donc la surprise nouvelle viendra effectivement plutôt d'autres déploiements. Et c'est pour ça que je par exemple, mentionner Apple, où il y a un vrai sujet, un vrai test, à mon avis, sur la sortie de ce nouveau modèle 16, qui devrait être le premier produit vraiment intégrant nativement toutes les solutions d'IA, et on va voir l'appétit ou pas du consommateur, et surtout le ressenti.
Est-ce que la hype Apple peut reprendre un peu de vigueur avec ces outils?
Et c'est une façon de tester, est-ce que le déploiement de l'IA peut se généraliser à
une
consommation plus... Voilà, et notamment sur, effectivement, la notion de rentabilité et sur la monétisation.
Et le marché peut être patient par rapport à ça, parce que c'est... Bon, l'IA, ça fait des années que ça existe, bien sûr, mais... L'IA générative telle qu'on la voit aujourd'hui, c'est encore assez récent. Le marché peut être patient avec l'idée de monétiser ses produits, ses infrastructures, ses autoroutes et ses rails, ou est-ce que ça va tellement vite aujourd'hui, y compris dans la tête des investisseurs, que, je veux dire, 2 ans de ChatGPT et de GPU, maintenant, il faut délivrer.
C'est autre chose, ouais, c'est ça, d'accord. Bien sûr. Et c'est aussi pour ça que M. Jensen parle de capacité d'innovation qui doit rester extrêmement importante pour Nvidia, parce qu'Nvidia va devoir contribuer aussi à montrer comment est-ce qu'on peut mieux rentabiliser ou être plus efficace ou encore plus puissant en termes de calcul pour démocratiser plus largement et réussir à ce que les opérants de ces supercalculateurs, de ces infrastructures puissent mieux monétiser ces investissements.
Bon, sur l'idée d'un élargissement du marché américain, quand on dit élargissement, c'est vrai que ces derniers trimestres, voire les 2 dernières années, ça a été un rallye très concentré sur ce thème de l'IA, Nvidia, les GAFAM, etc., la grande tech américaine. Est-ce qu'on peut imaginer, avec un aspect fondamental, un aspect technique également peut-être, que le marché américain regarde d'autres types de secteurs, d'autres types d'intérêts que ces vaisseaux amiraux?
Oui, moi je Xavier. Pense déjà depuis la mi-juillet en fait. Ouais. On n'a plus
Alors c'est intéressant, donc mi-juillet c'était le point haut du marché américain, ouais. Avant le mini-crash de quelques séances, point bas le 5 août, et ensuite reprise en V direct qui a ramené quasiment le S&P sur ses records.
Tout à fait, mais notamment les hors Magnificent Seven,
c'est ça.
Qui performent un petit peu mieux que la pure tech américaine, alors que ce n'était pas du tout le cas.
Très intéressant,
depuis
alors.
Ces derniers trimestres. Et ce qu'on voit, c'est que ça se voit aussi un peu dans les résultats. C'est-à-dire que les résultats, si on enlève ces 7 magnifiques, aux États-Unis, on avait des résultats qui ont stagné en 2023. Et qui, là, retrouve de la croissance. On est repassé au-dessus de 10% de croissance sur les résultats des entreprises hors tech américaines.
Ouais.
Donc, on voit une reprise de ce côté-là. Le fait que le cycle soit un peu plus mature, qu'on aille vers des baisses de taux de la Fed et tout ça, ça peut aussi favoriser, j'allais dire, des secteurs plus traditionnels qui pourraient se reprendre, sachant que là...
Au moment où la croissance américaine ralentit, nous dit-on, 3% encore affiché au deuxième trimestre, vous dites, il y a toute une gamme, une variété de secteurs et d'entreprises qui vont voir quand même leurs résultats progresser dans ce moment-là.
Si l'économie américaine tient.
Si c'est une prolongation du cycle.
Exactement. Et c'est là où on a une grosse question et des incertitudes à court terme, c'est la vitesse de ralentissement de l'économie américaine et du coup l'impact sur les bénéfices des entreprises. Pour l'instant, le scénario central qu'on a, en tout cas, c'est que oui, on aura un ralentissement macro. On va pas rester à 3% de croissance aux États-Unis, mais si on passe pas en dessous de zéro, si pendant quelques trimestres on a un ralentissement, mais que sans récession, on peut avoir des bénéfices d'entreprise qui se tiennent bien.
Ouais. Ça veut dire qu'à ce stade, je vous amène un peu sur le discours de Jérôme Powell. À ce stade, ce que nous dit Jérôme Powell, c'est une bonne nouvelle pour les marchés. J'entends pour les marchés d'actifs risqués.
Oui. C'est le retour du put de la Fed alors qu'il n'y a pas de catastrophe économique. Ce que dit Powell, c'est le problème de l'inflation, il est réglé. Et c'est vrai que tous les indicateurs qu'on a dernièrement montrent que vraiment, on va dans le bon sens là-dessus. Et du coup, Powell dit, mon problème, c'est plus que la croissance et l'emploi. Et ce qui était surprenant la semaine dernière dans son discours, c'est qu'il dit, non seulement mon problème, ça va être l'emploi, je ne veux pas que ça se dégrade trop, mais il dit même, je ne veux pas que ça se dégrade du tout.
Non. Oui.
Donc maintenant, on a un taux de chômage qui est remonté très légèrement à 4,2%, 4,3%. Ouais. Et il dit, c'est ça qui nous a un peu surpris, c'est qu'il dit déjà ça, c'est
on n'est pas loin d'être hors des clous, voilà. Hors du schéma qu'on voudrait avoir. Voilà.
Exactement. Alors après, est-ce que c'est que Powell qui a ce discours, qui a cette vue-là, ou est-ce que c'est toute la Fed? Nous, on pense que la moyenne de la Fed est prête à accepter encore un peu de hausse de taux de chômage. Tant qu'on reste très en dessous des 5%, ce n'est pas une catastrophe. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que maintenant, si on a des mauvaises surprises sur l'emploi, la Fed réagira.
Ouais.
Et ça, c'est vraiment un changement fondamental par rapport aux 3 dernières années, où la Fed disait, même s'il y a une récession, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est l'inflation. Et donc, je ne réagirai pas. Donc, quand vous êtes investisseur en actifs risqués, c'est quand même très rassurant si la Fed dit... Si ça va moins bien, je serai là pour... Ouais.
J'ai les marges de manœuvre désormais pour être en soutien, si nécessaire, d'une économie qui commencerait à flancher un peu plus vite ou un peu plus fort que prévu.
Exactement. Ouais. Là, à court terme, par contre, nous, on reste un peu prudents à court terme parce que le marché, du coup, action a acheté une Fed qui soutient le marché, quoi qu'il arrive, qui empêchera toute dégradation macro. Et les taux, eux, anticipent que la Fed va vraiment tout de suite baisser ses taux beaucoup.
100 points de base d'ici la fin de l'année. Hein.
C'est ça.
Il y a que 3 meetings. Hein.
Ça veut dire au moins 50 points de base à un meeting. Bah. Ce qui paraît peu probable si l'économie tient. Si l'économie tient, la Fed peut dire « je commence à baisser graduellement, mais je ne vais pas non plus être dans l'urgence ». C'est là où il y a un peu une dichotomie qui, à court terme, peut faire de la volatilité. Ouais. Bon, c'est pour ça qu'on est un peu prudent en septembre-octobre. Et puis, en plus, il y a les élections américaines qui arrivent. Donc, ça ne va pas aider non plus. Mais par contre, à moyen terme, clairement, on est de nouveau dans un cycle où les bonnes nouvelles seront des bonnes nouvelles. Et quand la croissance repart un peu en 2025, ça tire... vraiment les actifs risqués.
Bon, effectivement, très intéressant. Il y a deux ans, je rappelle, la teneur du discours de Jerome Powell à Jackson Hole, c'était espérez le meilleur, mais préparez-vous au pire.
Exactement. Voilà.
Là, on est effectivement dans quelque chose beaucoup plus accommodant vis-à-vis, en tout cas, de la croissance et de l'emploi, comme vous l'avez dit. C'était dit de manière très explicite. Très explicite par Jean-Paul. Il n'y avait pas besoin d'avoir un dictionnaire de banquiers centraux pour comprendre ce qu'il a dit à Jackson Hole. Comment vous analysez alors, ce que tout le monde observe comme étant le pivot complété de la réserve fédérale américaine, Laurent, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que ce sont de bonnes baisses de taux qui attendent les investisseurs et les actifs risqués? Et quels peuvent être les scénarios un peu alternatifs de cette espèce de Goldilocks qui reste quand même, j'ai l'impression, le socle du marché aujourd'hui.
Je partage l'avis de Xavier. On a un scénario d'atterrissage en douceur. Hein. Donc effectivement, on considère que la Fed a vraiment parfaitement appréhendé en fait cette fin de cycle et va l'accompagner par la baisse des taux à un moment optimal.
Ils sont dans le bon tempo.
Alors en revanche, je mettrai un tout petit bémol. Je pense qu'on est... Et effectivement, il y a une dichotomie au sein des membres de la Fed sur les 50 points de base, avec Powell qui est plus dovish peut-être que l'ensemble des gouverneurs. Simplement, il y a un paramètre qui n'a pas été évoqué, ce sont les élections américaines. Et le fait que la probabilité que M. Trump soit élu rendrait problématique une baisse des taux qui, là, à ce moment-là, deviendrait peut-être impossible à mettre en place, alors que le cycle est quand même en train de se réduire, qu'il y a nécessité de baisser les taux. Donc je pense qu'on risque quand même d'avoir 50 points de base à cause de ce paramètre.
Pour préempter, d'une certaine manière, le risque ou couvrir le risque d'une...
Pour ne pas être tenu responsable, justement, de cette récession qui est notamment du mandat dual de la Banque centrale américaine qui est lié à la croissance. Pour autant, on pense que, justement, avec cette baisse de taux, on va accompagner le cycle. Et effectivement, on pourrait avoir un soft landing. Et donc, il va y avoir une répartition, un put de la Fed, avec une répartition de la valeur créée, qui est peut-être moins sur la tech, mais effectivement, sur les secteurs qui, eux, produisent de la croissance. Et autour de 15% de résultats sur le S&P élargi l'an prochain, lorsqu'on va les atteindre, on a du mal à y croire quand même, malgré ce momentum positif, parce que je vous rappelle qu'on a quand même un peu moins d'inflation, on a une croissance qui est à 3%, mais il y a quand même un chemin à faire. Et pour autant, il y a des valorisations qui sont extrêmement attractives pour certains secteurs. Donc en fait, la balance, même légère déception sur les BPA réalisés forward, mais par rapport à la volo, rend extrêmement attractive toute la partie de la cote qui a été justement un petit peu délaissée. Et on voit que le S&P Equal Weight, donc équipondéré, d'énormes possibilités de performance dans ce cadre-là. Un rattrapage des small caps aussi qui pourrait... En fait, il faut acheter des actifs de duration. Et là, je rejoins un peu l'idée. Mais quelle duration? Pas forcément la duration taux qui est anticipée, mais la duration action qui, elle, en fait, il faut aller chercher de la duration sur les actions. Et quel secteur? Le secteur immobilier, tout ce qui est longue duration, pas forcément la tech qui est un peu trop pressée, les small caps, bref, il y a de quoi aller à la pêche et aller à la pêche à la performance avec un couple risque-rendement assez attractif.
Intéressant, parce qu'on a vu en juillet, donc c'était avant la réunion de la Fed du mois de juillet, le Russell 2000 a pu prendre comme ça une dizaine de pourcents assez vite, résorbant une partie de l'écart large qui peut y avoir face aux indices. Et qui reste, il reste large et reste de la marge.
Stoppé par
mais
le
il y a une volonté, il y a eu quelque chose, quoi.
Cette volonté, je pense qu'elle va vraiment se mettre en place.
Ah, oui.
Quand on regarde le différentiel, même sur l'Europe, en fait, le différentiel de croissance de BPA entre les small et les large, on a une même valorisation alors qu'on a à peu près 4 à 5 points de différence. Bah, enfin, peut-être, on va avoir ce catalyseur qui permet justement un repositionnement et une dispersion de cette valeur créée qui était focalisée sur les large caps. Et il y a une thématique aussi importante, c'est que si on a une décroissance globale, parce que c'est quand même ce qui est en train de se mettre en place, ben forcément, les large cap, elles ont de la trésorerie, ben vont aller chercher de la révolution sur du M&A et aller chercher ces small cap qui offrent de la valeur et qui permettent cette révolution.
D'accord avec cette idée de rotation sur la base de baisse de taux ou d'une Fed en tout cas qui accompagnerait le cycle, comme disent Laurent et Xavier, sans être nécessairement en soutien d'une économie qui serait au bord de la récession.
Oui, je le souhaite. J'ai du mal à voir à court terme pour deux raisons. D'abord parce qu'au troisième trimestre, quand même, les attentes de résultats pour les 495 et quelques repassent dans un territoire plutôt inférieur à ce qu'on vient de voir au deuxième trimestre. Donc le côté ralentissement en cours de l'économie américaine, il est quand même en train de se matérialiser. D'accord. Sur ces autres secteurs qui ne sont pas les grands secteurs de croissance liés à la tech. On va le voir au troisième trimestre.
C'est pas sur le Q3 qu'on a révisé les anticipations.
Non, c'est d'accord. Plutôt sur la fin de l'année, en disant que cette espèce beaucoup d'entreprises communiquaient lors de la publication des résultats du premier trimestre qu'il allait avoir une réaccélération progressive au cours de l'année. On pense notamment au secteur qui était un peu en difficulté, où on attendait le rebond, les semi-conducteurs, l'automobile, la chimie, le tourisme, ces secteurs, pour l'instant, ils ont déçu. Et le rebond, il n'est pas encore là. Donc, au troisième trimestre, on n'aura pas encore ça. Et l'écart de croissance de BPA affiché au troisième trimestre, il va de nouveau être en faveur des grands acteurs plutôt de la tech. Donc, ce mouvement, je ne le vois pas trop à court terme. Et il y a un autre élément, c'est que pour l'instant, vous avez parlé d'un scénario où c'est Donald Trump. Dans le scénario Kamala Harris, je pense que c'est complètement différent. Parce que là, on a déjà une esquisse de programme avec, si on fait rapide, une estimation de l'ordre de 8 à 9% d'impact sur les EPS du S&P, parce que beaucoup plus de taxation, notamment sur l'impôt sur le revenu, sur tous les résultats qui sont réalisés à l'international. Donc avec un scénario qui est quand même un petit peu différent en termes de croissance de BPA et de questions aussi sur l'impact économique à court et moyen terme. Donc moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de nuages avant d'affirmer ce scénario qui, effectivement, peut être une hypothèse, mais qui n'est pas aujourd'hui, en tout cas, nous, notre scénario central à court terme sur un élargissement vraiment du marché et aller chercher des secteurs sur lesquels la dynamique de croissance d'EPS, pour l'instant, reste un peu en question. Parce que, oui, on est assez d'accord sur l'idée d'un scénario central sans hard landing, mais c'est une hypothèse qu'on ne peut toujours pas, à mon avis, complètement exclure. Ah oui. Et avec, à court terme, pour l'instant, des croissances de BPA qui sont, au troisième trimestre en tout cas, pas encore au rendez-vous.
Bon, bah, intéressant. Hein. C'est un des faits de l'été aussi. Xavier, je
sur la politique américaine.
Ah bah, là-dessus. Si, j'ai... Ben oui, non, mais c'est, je voulais vous relancer là-dessus, donc allez-y.
Évidemment. Là, moi, je ne faisais pas l'hypothèse de Trump. Je fais une hypothèse que Kamala Harris, si elle était élue, elle n'aurait pas la majorité au Sénat. Parce que, c'est assez probable, vu qu'il y a beaucoup de démocrates qui doivent être réélus, dont le siège est remis en question. Et donc, c'est peu probable. C'est vrai. Et du coup, pour moi, la probabilité que le programme de Kamala Harris soit mis en œuvre, les hausses de taxes, par exemple, est assez limité. Alors que côté Trump, si Trump était élu, c'est pas plus probable, mais alors, il y a plus de chances d'avoir une vague rouge. Déjà. Et même dans les politiques que propose Trump, notamment ce qui aurait le plus gros impact sur le marché, les tarifs, les droits de douane, sur le marché au niveau mondial, il peut les mettre en œuvre tout seul, en fait. Sans le convaincre. Alors que ce que propose Kamala Harris, c'est beaucoup du fiscal. Et donc, ça passe par... il faut absolument avoir la chambre du Congrès.
La problématique de Trump, ça sera quand même de gérer le marché. Parce qu'il y a un moment où baisser les taxes sur des niveaux de taxation effective qui sont relativement bas, puisqu'on est à 22%, et les baisser à 15%, ça paraît compte tenu du déficit budgétaire relativement compliqué. Il risque quand même d'avoir une partie même de son électorat qui soit un peu contre cette possibilité. Donc, en fait, Kamala Harris ou Trump élu, finalement, en fait, les marges de manœuvre vont être réduites. Pas pour les mêmes raisons, mais finalement, c'est pas forcément un game changer. Et en fait, c'est en tout cas, nous, notre anticipation, c'est de se dire que, en fait, ça va être limité soit par les marges budgétaires qui sont elles aussi limitées, soit par effectivement des chambres qui seront pas acquises à la majorité. Et le Sénat.
Il y aura des garde-fous, quoi.
Exactement. Un peu comme en France, quoi, au final. Donc, on est pas vraiment sur un scénario Trump peut être élu ou Kamala Harris peut être élu. Finalement, pour nous, hormis effectivement peut-être à la marge les tarifs, là qui pourrait changer la donne, mais j'en ai parlé plutôt sur la Fed, là, sur la politique monétaire de la Fed. Le reste sur la politique monétaire, budgétaire, j'ai bien peur que ce soit...
D'ailleurs, on a vu cet été, au moment où Kamala Harris remonte dans les sondages, parce qu'en fait, si on prend fin juillet, c'était sûr que Trump soit élu. Ouais. Et on avait dans les marchés intégrés ça, on le voyait sur les niveaux de taux longs qui étaient plus élevés, et sur le dollar qui était très très fort. Et ce qu'on a vu sur le mois d'août avec ce rééquilibrage au moins des probabilités de victoire, c'est que ça a pesé beaucoup sur le dollar, ça a pesé beaucoup sur les taux en plus du repricing de la Fed. Il y a eu quand même cet effet, ce dégonflement, j'allais dire, de la prime Trump.
Ah, bien sûr, les Trump trades se sont un peu effacés, quoi.
Et sur les actions, il n'y a pas eu grand-chose, enfin. Donc ce qu'on voit, c'est que pour moi, le premier impact n'est pas sur les actions.
Adrien ? Moi, je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu grand-chose sur les marchés actions. C'est justement à ce moment-là où cette tentative d'élargissement a été un peu...
Stoppée.
Ouais. Et la lecture, pour moi, elle est quand même un peu là. Et d'ailleurs, les secteurs... Alors, si on fait du panier ou qu'on réfléchit à des secteurs qui seraient privilégiés...
Trump trade, c'est aussi une revalorisation de secteurs plus traditionnels, fossiles, etc.
Oui, en partie,
qui étaient
en partie. Alors, il y a aussi le côté, même si ça peut faire sourire, on a quand même une administration démocrate qui vise un peu quand même les monopoles. Hein. La tentative de Google, c'était sur les échanges sur Google et la volonté de faire démanteler Google, qui peuvent faire sourires sont quand même là avec une volonté quand même d'essayer de réglementer un minimum tous ces monopoles. Donc oui, je pense qu'il y a quand même dans le marché ce scénario en fonction de l'administration prochaine qui peut changer cette lecture sur l'élargissement ou pas de la performance des marchés.
Après, à mon avis, surtout d'un point de vue sectoriel, plus que d'un point de vue niveau de marché S&P.
Oui. Après, l'arrêt du mouvement, il est aussi lié à en fait, ce phénomène de carry trade. Qui est,
alors moi, j'aimerais bien qu'on revienne un peu quand même sur cet épisode estival. Ce qui reste du 5 août, etc.
Oui, parce que là, ça a mis un coup d'arrêt sur les actifs risqués. Quand même, on a vu un Nikkei perdre 12%, une volatilité explosée à 65%. Mmh. Moi, ça fait 35 ans que je fais ce métier.
Ça arrive pas deux fois. Oui, voilà. Donc, je veux bien qu'on y revienne, justement.
Donc là, effectivement, on a été un peu surpris avec une conjonction de facteurs. Effectivement, une politique monétaire japonaise, honnêtement, qui n'a pas vraiment surpris, mais il y avait un tel levier. Et puis, avec la conjonction, effectivement, de chiffres d'emploi américain pas terrible, de PMI, donc d'indice de directeur d'achat au niveau de l'activité aussi pas terrible, des débouclements, effectivement, qui sont mis en place à ce moment-là avec une liquidité très, très faible.
Plus les doutes sur Nvidia, hein, on le rappelait, ça arrive à ce moment-là aussi, les annonces sur Blackwell, bah, Nvidia perd 30% cet été, hein, quand même.
Ouais, qui dit qu'il se débarrasse de 62,5%.
Ouais, de la part d'Apple, ouais, bien sûr, oui.
Il y a eu un ensemble, en fait, il y a eu une conjonction de facteurs qui a fait déborder un petit peu le vase et qui ont stoppé un petit peu ces mouvements qui avaient commencé à se mettre en place. Bon, là, il faut que la poussière retombe un peu, ce qui est en train de se faire. Donc là, tout le monde, en fait, il y a les contrôles de risque qui sont en train de regarder. Il y a la volatilité qui est remontée, donc tous les gérants systématiques ne peuvent pas remettre en place les mêmes stratégies. Bon, c'est en train de se tasser, et puis ça va repartir. Donc après, effectivement, est-ce que ça va repartir sur de la tech? C'est possible, je suis complètement d'accord sur la dynamique de BPA. Hein. Mais je l'évoquais, je pense qu'il faut combiner la dynamique de BPA avec les valos. Et que, en fait, on a vu quand même un énorme re-rating, et que on est quand même arrivé à des niveaux de valos qui sont un peu tendus, et c'est pas une croissance des BPA maintenant qui commence à être normée sur la tech qui va vraiment surprendre. Et donc après, on va avoir en fait le différentiel de BPA côté des boîtes non valorisées par rapport à une baisse des taux, donc capitalisation versus actualisation, plutôt en faveur des segments encore une fois longue duration. On n'achète pas d'automobile. Qu'on soit très clair.
D'accord.
Soyons aussi précis sur les segments qui doivent être achetés. L'automobile fait face à un cycle là de désubventionnement qui
c'est presque la tempête parfaite là.
Qui est pas fini, qui commence. Ouais. Qui commence honnêtement.
Oui, avec des choix industriels lourds qui ont été faits, qui se retrouvent confrontés avec une réalité qui est mouvante, changeante.
Qui ont été faits sous la contrainte.
Oui, oui, oui. Oui. Sur le 5 août, non, mais c'est nettoyé, enfin, notamment ces positions de carry qui s'accumulent depuis des années.
C'est pas nettoyé. D'accord. La parité de pouvoir d'achat, en fait, entre le yen et le dollar, c'est à peu près 140. Si on regarde même contre l'euro, en fait, on est sous-évalué. Donc, non, c'est pas fini. Et c'est la politique monétaire japonaise risque encore un peu de se durcir. Et en même temps, on risque d'avoir une accélération, en fait, de la baisse des taux aux États-Unis. Donc, non, c'est pas terminé. On peut avoir un paiement des 2400 milliards en fait, de yens voilà, qui sont instaurés.
J'espère que ça se fasse en douceur, graduellement.
Ça ne peut pas se faire rapidement. Ah ouais. Pourquoi ? Parce que c'est des actifs privés la plupart du temps. Mais en revanche, ce qu'on sous-estime, c'est la capacité de hedge sur les devises. Parce que ça se fait rapidement. Donc ça peut aller très très vite. Et donc derrière, ça va forcément mettre en place des mouvements de flux assez colossaux. Et notamment, peut-être sur les treasuries, en fait, des ventes de treasuries qui sont détenues par les et pas simplement sur le yen, mais aussi sur le yuan. Je ne sais pas si vous avez vu le début de commencement, en fait, d'appréciation du yuan avec la politique de la banque de Chine qui est en train de changer. Vous l'avez vu, ils l'ont annoncé ce matin. Ils commençaient un programme d'achat sur les obligations. Ouais, ouais. Donc, en fait, on a du mal à voir quelles peuvent être, en fait, les mouvements de capitaux qui vont, en fait, être liés à ce différentiel de politique monétaire, tellement le levier est important sur ce carry trade.
Xavier, entre les 7 trillions de dollars qui sont parqués sur des fonds monétaires américains, qui à un moment vont se poser la question si les taux doivent baisser, de où est-ce que je vais les allouer, et face à ça, une banque du Japon qui remet un peu de rendement, qui normalise un petit peu quand même la courbe obligataire japonaise, enfin, je veux dire, il y a des masses de capitaux en jeu qui sont effectivement substantielles.
Après, ce qu'on a connu cet été, il y a eu quand même un débouclage pour moi assez fort des positions de hedge fund, de CTA, enfin donc de tous les investisseurs.
Fonds systématiques, oui.
Qui étaient sur des positions extrêmes en juillet, ça, tout le monde le voyait. Et donc c'est vrai que ce n'était pas une surprise si grosse que ça, que la Banque Centrale du Japon monte les taux, mais ça... En plus, pendant l'été, donc à un moment où il n'y a pas de liquidité, ça a fait un choc de débouclage assez énorme. Je suis d'accord que tout n'est pas débouclé, hein, loin de là, mais maintenant, on n'est plus sur des investissements d'investisseurs plus longs, plus structurels, et donc je pense qu'on va avoir moins... Enfin, le risque de gros choc, comme ce qu'on a connu en août, il est quand même assez limité. Par contre,
des acteurs qui prennent des décisions sur du long terme, etc., exactement, qui sont peut-être moins soumis à la...
On reste aussi yen à moyen terme.
D'accord.
Yen à moyen terme. C'est pas pour ça qu'on pense qu'on va reprendre des figures
d'un coup.
Et sur le redéploiement des fonds monétaires américains, c'est un peu pareil. On va pas avoir un shift non plus.
Tout va pas bouger d'un coup.
Non.
D'accord.
Je pense pas.
Il y a des effets de lag qui sont en jeu aussi. Enfin, je veux dire, il faut combien de baisses de taux avant que ça bouge du côté des fonds monétaires.
On avait des taux courts à 5,5. Même si la Fed commence à baisser ses taux, si ce n'est pas aussi agressif que pense le marché, ça ne devrait pas accélérer non plus les réallocations.
Comment on regarde
l'élastique étendu au niveau des parités de pouvoir d'achat, ça fait un moment que ça dure. Il faut regarder les déficits budgétaires. Alors, ça fait 20 ans qu'on raconte la même histoire.
Ouais.
On est bien d'accord.
Oui.
Mais il y a un moment, quand même, les fondamentaux, même si ça prend du temps, peuvent revenir sur le devant de la table. Donc là, je dirais qu'il y a quand même un épiphénomène qui est en train de se mettre en place. De réallocation de géopolitique, de réallocation au niveau des devises, qu'il faut prendre en compte. On est dans un environnement post-Covid et post-guerre en Ukraine et différents.
Malheureusement, guerre en Ukraine, non, mais. J'entends.
En Ukraine, qui en fait amène des investisseurs globaux internationaux, notamment du Moyen-Orient, à peut-être réallouer en dehors de la zone dollar. Donc attention à ces mouvements de capitaux qui ne sont pas forcément effectivement liés à une politique monétaire qui va passer de 0,25 à 0,50 et qui ne va pas changer la donne, mais qui va peut-être être le déclencheur justement de mouvements un peu plus massifs en fait, de réallocation. Il faut voir aussi, et c'est peut-être le contre-exemple, c'est que les fonds globaux, c'est 70% en fait, du dollar. Puisque le S&P, quand on achète un MSCI global, c'est 70%.
Les deux tiers de américains.
Si la devise commence à baisser un peu, Trump, Harris, quel que soit le nouveau président, on va peut-être avoir un petit peu de tension sur même les fonds globaux. Donc peut-être un désintéressement des fonds globaux qui a un impact sur le dollar, qui a un impact sur les actifs américains. Peut-être pour la première fois, un redéploiement vers les émergents. Bon, la zone euro.
Ah bah alors,
comment, comment dire
ouais, bah,
c'est peut-être pas encore pour tout de suite.
D'accord. Mm. Bon, bah si, parlons-en quand même, parce que c'est là où on est. Bah, bon, attends, déjà quand même, les indices, le Stoxx 600 est au plus haut historique. Le DAX est au plus haut historique. Non mais enfin, je veux dire, peut-être qu'on voit pas des masses de capitaux arriver de l'étranger, mais nos indices sont quand même au sommet. Alors que sur le plan... la dynamique économique, non seulement il ne se passe pas grand-chose, mais j'ai l'impression que l'idée d'une reprise timide en zone euro est un peu remisée pour l'instant.
Oui, c'est un peu les mêmes propos que je tenais tout à l'heure sur la volonté, ouais. l'attente de réaccélération de certains secteurs cycliques aux États-Unis. On est un peu dans la même situation, même si les résultats dans l'ensemble n'ont pas été mauvais, que les entreprises vont bien, qu'elles ont continué à se désendetter, que leur sensibilité au taux reste finalement extrêmement faible. Que pour certaines, elles ont recommencé à faire aussi des opérations de fusion-acquisition. Donc oui, on n'aura peut-être pas de réaccélération, mais il n'y a pas non plus de décrochage ou de déception massive sur les BP attendus. On attend quand même, le marché attend pour 2025 10 à 12% de BP. Alors, comme tous les ans, on commence un peu haut, puis on étiolera certainement progressivement. Mais voilà, on est sur un marché, en termes de valorisation, qui est effectivement pas particulièrement alarmant. Il y a un peu de rotation sectorielle. Le suivi de l'exposition à la Chine a quand même été un peu pénalisant depuis deux mois. Tous les secteurs...
tous les groupes présents sur place souffrent énormément.
Voilà, et particulièrement le CAC 40. Donc, si on met même de côté le suivi de la dissolution ou du spread OAT Bund, effectivement, le mois de juillet d'août a été un peu compliqué pour tous les secteurs... particulièrement français, très exposé. C'est
intéressant de voir sur un pernaut. Je crois que la publication passe complètement à la trappe. Oui, c'est que... simplement la communication de Pékin ce matin, dire qu'il n'y aura pas de tarif anti-dumping transitoire. Il n'y a pas de tarif pour l'instant sur le cognac.
Ils ont sens du timing, effectivement, d'annoncer ça le jour des résultats.
Ouais. Non, mais ça montre bien la sensibilité, effectivement, du marché.
Ouais. Les messages des entreprises est quand même à court terme. Personne n'est en train de dire qu'à moyen long terme, ils sont en train de revoir fondamentalement leur position sur le marché ou les investissements qu'ils vont faire dans ce sujet.
Et c'est le signal d'une Chine qui s'enlise ou c'est le signal qu'en Chine, il y a désormais des concurrents chinois de classe mondiale sur des secteurs automobiles, consommation, autres, peut-être demain, pourquoi pas sur le luxe, qui sont capables de sortir des marques occidentales du marché.
Bah, c'est un peu ça qui est très difficile à lire, en fait. Dans la consommation, on a des fonds thématiques chez Mandarin sur la consommation, on voit beaucoup de marques japonaises très très bien réussir en Chine.
Ah, d'accord.
Donc, est-ce que c'est un mouvement anti-occidental avec, on le sait, les marques américaines depuis longtemps, sans venir à Nike.
Des exemples, il y en a plein, Starbucks versus Luckin Coffee, etc. etc.
Les difficultés de Nike, Adidas, Puma sur ce marché versus toutes les marques locales. Oui, il y a certainement de la perte de parts de marché des marques occidentales avec un sentiment national qui est plus marqué, avec une préférence à consommer local. Mais c'est difficile de lire, effectivement, on ne peut pas poser des questions à un économiste, mais sur où est l'économie chinoise. Elle va être visiblement sous les 5%, ça semble définitivement acté. Moi, je trouve qu'on a peu entendu de choses sur les réunions du parti qui s'est tenue en mars qu'en juillet. C'est difficile, oui, en tout cas.
On a entendu peu de choses. Oui, c'est ça. Oui, il y a peu de choses qui sont sorties de ces rendez-vous et de ces réunions.
Par le prisme des entreprises occidentales est plutôt négatif. Et il y a quelques signaux positifs, je le disais tout à l'heure, avec des entreprises japonaises, mais c'est difficile à lire.
Bon, patron de BHP le disait, c'est une reprise très inégale. Autant l'immobilier, effectivement, reste très faible, autant il constate, lui, dans le secteur des matériaux, des minerais, qu'il y a de la dynamique sur l'automobile, par exemple, sur la construction navale, etc. Il y a des secteurs qui, pour lui, sont quand même plutôt encore porteurs.
C'est les secteurs soutenus par l'État, ou par les subventions. Globalement, c'est vrai que cet été, on n'en a pas beaucoup parlé, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, mais les données chinoises ont quand même beaucoup déçu. D'un point de vue macro, la croissance chinoise est plus faible que ce qu'on pensait. Elle repart pas. Et c'est vrai qu'on a attendu beaucoup ce qu'allaient dire les autorités au mois de juillet, où il y avait deux réunions importantes. Elles annoncent un peu de soutien, notamment via des subventions à certains biens de consommation, via de l'endettement des autorités locales pour l'immobilier, pour essayer. Mais c'est pas de nature à relancer. Donc en fait, on se retrouve, on est en train de réviser à la baisse la croissance chinoise pour cette année, et on pensait que ça serait compensé par plus de soutien. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on voit.
C'est un soutien à minima.
Voilà, à minima. On n'est toujours pas sur un scénario d'effondrement de l'économie chinoise, mais on est clairement sur quelque chose qui est plus mou, plus longtemps.
Une fois qu'on a dit ça, petit tour de table, commencez à garder la parole, Xavier, sur logique d'investissement en tant que stratégiste de LBPM. Quand on peut opérer sur plusieurs classes d'actifs, où est-ce qu'on a envie d'être, où est-ce qu'on est le plus confortable, où est-ce qu'on n'a pas envie d'être aujourd'hui, par exemple.
Alors, à très court terme, on n'est pas à l'aise avec la duration taux, qui a beaucoup rallié, ouais. Surtout aux États-Unis, en fait.
3,85 sur 10 ans américains, c'est cher.
Ça, c'est cher parce que notre scénario central, ce n'est pas de récession. Si on passait dans un scénario de récession, évidemment, on peut aller beaucoup plus loin. Mais donc ça, on préfère du coup l'Europe où c'est en valorisation un peu moins tendue. Et par contre, sur les actions, nous, on reste exposés avec une exposition moyenne et avec ce qui est assez rare, un biais plus Europe que américain.
Parce que des cotes de valorisation ?
Parce que des codes de valorisation, d'accord. Parce que assouplissement monétaire et donc une rotation. En fait, c'est plus de risques aux États-Unis. En fait,
je comprends.
C'est plus ça.
Ouais, je comprends. Ça vous semble plus risqué d'être investi sur les actions américaines aujourd'hui que sur les actions européennes au global, Laurent?
Je rejoins Xavier là sur la duration. Une duration plutôt longue, en fait. On reste quand même sur la partie courte, notamment sur la partie crédit. Je pense qu'il faut opérer une bascule sur des obligations gouvernementales vers le crédit qui offre, en fait, même si les spreads sont relativement serrés, en fait, toujours plus de portage et un portage relativement intéressant, notamment même sur les obligations au rendement à court terme, autour de 5%, ça nous paraît offrir de la valeur. Et surtout, compte tenu de l'inflation que vous avez évoquée, on a un rendement réel de 3% qui paraît assez intéressant. De l'autre côté, sur les actions, on opère cette rotation. On sort un peu de la tech, des segments qui nous paraissent un peu chers et on joue justement aussi cet atterrissage en douceur. On privilégie malheureusement pas l'Europe, donc on est plutôt, on reste encore un peu sur les États-Unis, sur les small caps, sur cette equal weight, avec un rattrapage de ce côté-là, même si les anticipations de résultats sont un peu tendues, complètement d'accord. Et de l'autre côté, on a toujours un positionnement sur le Japon. On reste sur la Chine, on a une petite position, mais on considère que la valorisation est intéressante. Et il y a quand même un redémarrage en termes de dépenses d'investissement. Les exportations, effectivement, il n'y a qu'un pilier qui marche, la concurrence ne marche pas. Mais il y a quand même des dépenses d'investissement sur certains segments qui sont intéressants, notamment le cuivre là, qui est porté par dépenses d'investissement dans la transition écologique. Donc émergent, US, mais rotation vraiment au niveau des
segments. Au sein de ces cotes.
Et on va chercher de la duration. Ouais. Mais
pas sur les taux, j'ai compris.
Pourquoi ? Parce qu'il y a le put de la Fed, je suis complètement d'accord, qui est quand même un game changer. Et je pense qu'il y aura un switch des investisseurs justement vers qu'est-ce qui peut bénéficier justement de ce put de la Fed et de la BCE.
Bien sûr.
Dans les prochains mois. Et donc voilà.
Adrien, chez Mandarin Gestion.
Aligné, pas grand chose à rajouter. Ouais, plutôt long crédit, attention à la duration à court terme. Plutôt long action japonaise, pas couverte. Plutôt un billet long yen. Nous, on est un peu prudent sur la Chine quand même, parce qu'effectivement, on a du mal à avoir des signaux où les choses se passent bien. Vraiment peur des surcapacités quand même dans beaucoup de secteurs, beaucoup d'industries. Et sur la notion de duration longue sur les actions, on est plutôt joué. Alors, quelque chose qui me plaît beaucoup, mais effectivement, la thématique de la transition écologique a quand même été un bain de sang depuis 2 ans. Ouais. On commence à revoir de nouveau un sujet qui réapparaît avec une probabilité non nulle de voir Kamala Harris faire perdurer le plan Inflation Reduction Act, voire même Donald Trump ne pas finalement tant l'entamer de prévu. Donc ça pourrait donner aussi un peu d'attrait à effectivement pas mal de secteurs à duration longue qui sont concernés par ce sujet.
Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Adrien Dumas, Mandarin Gestion, Laurent Denise, Odo BHF et Xavier Chappard, LBPAM.